appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. 120 millions de dollars d'investissement des partenaires techniques du secteur de l'électricité et financier ont été mobilisés pour la période allant de 2022 à 2025. C'est l'un des résultats de la table ronde tenue à Kinshasa du 25 au 26 janvier 2022 par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANCER. Cette réunion a porté sur des échanges afin de permettre l'accès pour tous à l'énergie électrique. Comment commentez-vous cette initiative? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir dans cette émission mise en onde par Willem Lungamba. Quant à moi, Pierrot Elamegi, c'est un réel plaisir de vous la présenter. Fidèles auditeurs, bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
120 millions de dollars de mobilisation pour ce programme d'accès à l'électricité. Je le disais tout à l'heure, la table ronde a été organisée par l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Comment commentez-vous cette initiative d'arriver à électrifier ces populations qui vivent dans les milieux ruraux ainsi que périurbains? Nous en parlons. Avec vous, vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets, comme on voit le débat qui se tient sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Mais aussi, en ligne, nous avons Monsieur Idesbald Chinamula, directeur général de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Monsieur Chinamula, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, avant peut-être d'évoquer la question de la table ronde, pourriez-vous brosser pour nos auditeurs en grande ligne la mission et l'existence même de l'agence?
Merci beaucoup. Donc, je voudrais commencer par saluer tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment et remercier la Radio Okapi pour l'opportunité qu'elle me donne justement de pouvoir parler de l'ANCER, qui est une très jeune structure qui, à ce jour, existe depuis 18 mois environ. Donc, en fait, elle existe avec la nomination surtout des mandataires. L'ANCER, c'est une structure qui vient dans le cadre de la réforme du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Donc, vous savez très bien que ce secteur a été libéralisé. Libéralisé pourquoi? Parce que l'État s'est rendu compte que nous avons accumulé beaucoup de retard au niveau du pays, de l'accès à l'électricité. On a accumulé du retard. On a maintenant besoin des investissements très, très importants. Et nous faisons presque la queue des pays avec des taux d'accès à l'électricité très, très, très faibles. Et pour ça, pourquoi ces retards? Effectivement, on s'est rendu compte aujourd'hui que la politique d'électrification était une politique axée sur les grands ouvrages, notamment le barrage des hydroélectriques de Inga, qui est une grande bénédiction pour le pays, mais qui nécessite des moyens très importants et ne peut pas couvrir vraiment de manière économique l'ensemble du pays, desservir les pays dans son ensemble de manière plus économique. Donc du coup, il faut changer d'approche, il faut changer de politique. Et la politique fait adoptée dans le cadre de la réforme du secteur de l'électricité, c'est aussi de cibler les milieux ruraux et périurbains qui ont été abandonnés, qui n'étaient pas la cible de la Compagnie nationale d'électricité qui était la SNEL, qui était focalisée dans les grandes villes. Donc les milieux ruraux et périurbains n'ont pas bénéficié des interventions de la SNEL. C'est pour ça que les taux d'accès dans ces milieux-là est aujourd'hui estimé à 1%. 1%, surtout dans les milieux ruraux, 1%. Et donc ça montre qu'il faut impérativement en même temps qu'on libéralise les secteurs, les gouvernements libéralisent les secteurs, ça veut dire faire appel à d'autres opérateurs, d'autres capitaux, des investisseurs qui viennent investir dans les secteurs. En même temps, l'État pense que dans les milieux ruraux et périurbains, il faut qu'il continue à jouer son rôle régalien de pouvoir aider les milieux ruraux et périurbains à pouvoir accéder à l'électricité. Donc l'État va continuer, malgré l'intervention de l'investissement privé, l'État va continuer à booster, à travailler, en fait, à attirer les investissements dans les secteurs, dans les milieux ruraux et périurbains. Voici un peu la mission de l'ANSER. Mmh. Et donc l'ANSER est à la fois un fonds pour promouvoir l'électrification rurale et périurbaine. On ne peut pas parler d'électrification dans les milieux ruraux sans un fonds de soutien. C'est impossible. Tous les pays qui ont fait des miracles dans ces domaines d'électrification rurale ont eu des fonds de soutien pour promouvoir les investissements dans ces zones. ANSER est également une agence de coordination des investissements de manière à faire la promotion des investissements privés dans les secteurs de l'électricité en RDC. Merci.
Et en quoi consiste exactement la table ronde qui vient de se tenir ici à Kinshasa?
La table ronde consistait justement à faire connaître d'abord cette mission de l'ANSER vis-à-vis de nos partenaires. Comme je le disais tout à l'heure, l'ANSER est une jeune structure qui vient d'arriver sur l'environnement institutionnel congolais et donc qui n'était pas suffisamment connu. Il fallait effectivement passer le message que nous sommes là, qu'il y a une agence qui va promouvoir l'électrification rurale dans une approche intégrée. Et donc ça, c'était la première chose, le premier objectif que nous visions. Mais la table ronde, c'était aussi de montrer le travail que nous avons réalisé depuis les 18 mois de notre existence. On a pris du temps à faire les diagnostics de la situation énergétique du pays. On a pris le temps à comprendre pourquoi il y a ce décalage entre les milliers urbains qui ont un taux d'accès à l'électricité qui oscille autour de 35% contre 1% dans les milieux ruraux. Et pourquoi toute cette zone de transition, cette zone tampon entre les milieux ruraux et les milieux périurbains, plutôt les milieux urbains, cette zone qu'on appelle périurbain, qui se développe, qui s'accroît de manière extraordinaire en RDC, cette zone importante avec qui abrite des populations très importantes n'est pas également desservie. Et donc, c'est ce diagnostic-là que nous avons compris, quels sont les freins, pourquoi les investisseurs ne viennent pas malgré la libéralisation. On a libéralisé les secteurs, souvenez-vous, depuis 2014, la loi qui libéralise les secteurs, nous sommes en 2022. Donc, ça fait quand même un peu plus de 6 ans, presque 8 ans, que le secteur est libéralisé, mais il n'y a pas toujours d'investissement privé qui arrive. Donc ça veut dire que ce marché n'est pas connu, ou bien les investisseurs privés redoutent toujours les risques. Ils ont des informations parfois erronées sur la situation et les contextes pays. Donc il était question aussi de pouvoir partager avec eux le travail que nous faisons et les rassurer que voici l'État congolais en train de travailler, l'État congolais en train de mettre en place des éléments d'incitation, des leviers d'incitation à l'investissement privé, que les risques, que les messages qui est diffusé sur la RDC n'est pas toujours la bonne et qu'il y a des choses agréables qui marchent au Congo. Il y a des perspectives intéressantes d'investissement en RDC et donc on peut atténuer bien entendu ces risques. Donc tous ces éléments-là, il était question effectivement de communiquer ça et particulièrement les plans locaux d'électrification. Ça, c'est les produits phares que nous avons présentés à la table ronde. Nous avons travaillé pendant 18 mois à produire les plans locaux, c'est-à-dire comment on peut électrifier ces pays en partant de la base territoire par territoire, et nous avons montré effectivement les schémas qui peuvent être utilisés. Et derrière cela, il y a des projets concrets qui devaient être développés et qui peuvent intéresser donc tous ces différents partenaires, tous ces investissements bailleurs, tous ces investisseurs intéressés sur les marchés, sur les opportunités d'investissement en RDC. Donc, alors, voici un tout petit peu l'objet de la table ronde.
Voilà, mais on sait au moins que tout cela peut avoir un coût. Est-ce qu'y a-t-il un coût estimatif aujourd'hui? De combien de fonds faudra-t-il mobiliser pour arriver à électrifier vraiment les milieux ruraux et périurbains?
Oui, bien sûr, on a fait des estimations. Donc les plans locaux d'électrification sont assortis d'un programme d'investissement prioritaire. Donc 2022, 2023, 2024. Donc et puis nous avons maintenant un programme à plus long terme, donc jusqu'en 2030 normalement. Nous avons des ambitions d'atteindre 30% d'ici en 2030, 60% d'ici en 2030 et 30% d'ici en 2025. Donc ça, ce sont les assignations qu'on nous a faites et nous avons démontré dans les plans locaux d'électrification et les programmes que nous avons proposés que c'est possible d'atteindre ces taux-là en faisant un certain nombre de scénarios qui peuvent des scénarios plausibles. Quoi. Nous avons essayé de monter ces scénarios et derrière ces scénarios, bien entendu, il y a des budgets importants à mobiliser. Mais écoutez, pour les budgets, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement l'État congolais qui va apporter les ressources pour financer ça. Nous parlons des 7 milliards, mais ces 7 milliards, en réalité, l'État congolais devait donner des incitations en termes d'investissements leviers, mais ce sont les investissements privés, parce que c'est un marché, c'est un business. Et donc nous avons fait des efforts pour communiquer que ce marché est viable. Et donc en comptabilisant les investissements des différents partenaires ça et là, nous pouvons effectivement arriver à couvrir cet investissement important. Une seule entreprise peut injecter 1 milliard sur le marché. Deux entreprises peuvent faire 4 milliards. Et donc, c'est possible entre d'ici les 10 prochaines années. Mais il faut que ces entreprises soient au courant des perspectives, soient au courant des incitations qui sont mises en place, soient au courant, effectivement, de l'évolution de ces marchés et des données. Parce que la grande absence ou les vides en termes des données, ça, c'est un handicap majeur pour les investissements, la promotion des investissements privés en RDC. On n'a pas des informations sur l'état du marché, on ne connaît pas quels sont les projets qui vont venir, on n'a pas assez de visibilité sur les perspectives du gouvernement, ses orientations politiques. Donc tout ça, nous devions communiquer sur ça pour pouvoir mobiliser les investissements privés. Donc voilà.
Voilà, on vous garde en ligne le temps d'écouter nos auditeurs qui voudraient bien intervenir dans cette émission. Ils sont nombreux sur notre standard. Mais je rappelle encore aux auditeurs de Radio Capique et ceux qui nous suivent peuvent également débattre avec l'ensemble des internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Nous avons Maître Edmond qui nous appelle de Mbandaka et Jérémy qui est à Lubumbashi. Maître Edmond, merci de nous avoir rejoint dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Perrault. Bonjour également à l'invité, à tous les invités.
On vous écoute, Maître Edmond.
Merci beaucoup, Monsieur Perrault, pour nous avoir associés à ce débat intéressant. J'ose croire que, en suivant l'invité, la manière à laquelle le projet a présenté, je pense que c'est une bonne chose, surtout avec la structure. Et moi, j'ose croire que ici, la structure fait une promotion des investisseurs, d'investissements dans le secteur de l'électricité, bien entendu, comme c'est un secteur qui est libéralisé. Et si peut-être l'invité devrait nous dire, parce que c'est un projet qui touche les zones rurales et périurbaines, il devrait nous dire la faisabilité de ces projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons des investisseurs qui viennent, par exemple, à l'Équateur, à Bikoro, à Ngende, par exemple, pour investir dans ce domaine de l'électricité, comment ils vont procéder techniquement? Parce que ici, on doit nous dire, la difficulté que nous avons ici au Congo, c'est une difficulté, les moyens techniques qui permettent de fournir l'électricité. Ils devraient nous dire, si les investisseurs seront là, est-ce qu'ils vont ériger les barrages hydroélectriques, où on va utiliser les zones thermiques, où on va utiliser les panneaux solaires, on va utiliser la biomasse et qu'on soit, on doit nous dire ça. Parce que moi ici, je pense que comme à l'écoutant, il fait plus allusion aux investisseurs privés. Et c'est-à-dire que l'État peut juste intervenir dans le sens d'inciter, dans le sens de facilités, de certaines facilités, imposition fiscale et qu'on soit. Mais moi je pense qu'ici, les investisseurs, ou le projet bien sûr, doivent être en cohésion ou doivent travailler en partenariat avec les gouvernements congolais. Parce que au niveau des zones rurales, nous qui vivons à l'intérieur du pays, je sais que, par exemple, si vous allez à 15 kilomètres, à 20 kilomètres de territoire de Bikoro, par exemple, pour installer, par exemple, un groupe thermique, ça sera difficile que ce groupe puisse fonctionner. Il n'y aura pas de techniciens quotidiens, il y aura un problème de mazout ou de carburant, ça va poser un problème. Moi, je pense que la solution serait, comme moi je le propose, que le projet s'associe avec le gouvernement. Parce qu'il y avait un projet, à l'époque, je me souviens, à l'époque du Premier ministre Matata Tampon, il y avait un décret qui a été signé pour la construction, où on puisse construire, ériger les barrages hydroélectriques partout à travers les pays, même chez moi à l'Équateur, il y avait ici dans la rivière Rouki qui a été visée, il y a un décret comme ça. Je pense que c'est question que les responsables de ce projet puissent s'associer avec le gouvernement, faire un plaidoyer pour que le gouvernement disponibilise les moyens appropriés, parce que sans le barrage hydroélectrique, je pense que ce projet ne va pas aboutir. Peut-être les gens parlent, ils sont à Kinshasa, ils font allusion aux zones rurales, mais il faut aller maintenant aux zones rurales. Comment ça se passe? Ça va se passer comment? Qui va entretenir les groupes? Qui va entretenir les panneaux solaires, par exemple? Je ne sais pas la technologie qui sera utilisée.
Alors projets, si on vous écoute bien, votre inquiétude, votre inquiétude, maître Edmond, c'est autour de modalité. Cela veut dire, quel type d'électricité faudrait-il aujourd'hui fournir? Ça dépend d'un territoire à l'autre, ça dépend d'un milieu à l'autre. Faudrait-il des barrages hydroélectriques? Faudrait-il des groupes thermiques? Est-ce qu'il faut installer l'énergie solaire? Tout ça, ça demande aussi la main d'œuvre qualifiée. Et vous avez voulu savoir qui l'invité peut nous dire spécifiquement ça va se passer comment d'un milieu à l'autre. Merci beaucoup, Maître Edmond. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints dans Parole aux Auditeurs. Bonjour.
Bonjour également à notre invité. Je pense que ces initiatives qui vont dans le sens à réguler le secteur énergétique sont à saluer à juste valeur, parce que surtout lorsqu'il s'agit de permettre à chaque couche sociale, n'est-ce pas, d'avoir accès au courant électrique, cependant, mais le plus dur demeure, c'est celui, n'est-ce pas, de rendre effective, n'est-ce pas, la faisabilité de toutes ces actions, surtout parce que ce qui manque aux Congolais et à ceux-là qui viennent se joindre à eux, c'est juste le patriotisme. Alors, nul ignore que les facteurs de développement, donc, c'est-à-dire, repose, n'est-ce pas, sur la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'énergie, n'est-ce pas, sur tout les territoires, sur tous les territoires, n'est-ce pas, que nous avons ici. Alors, nous osons croire que cette fois-ci, avec ces initiatives, ce serait la bienvenue. Mais ce que nous devons savoir, c'est de ne pas, n'est-ce pas, c'est ce que nous voyons souvent. Les gens qui sont, n'est-ce pas, affectés à ces travaux, n'est-ce pas, ne s'arrogent pas à cette règle qui veut à ce que chaque fois qu'on disponibilise les fonds, mais on est en face de ce manque de traçabilité et surtout d'orthodoxe dans la gestion, n'est-ce pas, des fonds qui sont alloués pour ce point. Parce qu'il faut que nous disons les choses en face, et en tout cas, les tableaux de la situation énergétique en République démocratique du Congo est totalement sombre, pour ne pas dire chaotique. Alors, il revient à ce stade, avec ses initiatives. Il vous souviendra qu'aujourd'hui, s'il y a le courant électrique, imaginez-vous, dans les milieux ruraux, à ce moment-là, vous allez voir que le pays, la RDC, va décoller. Et nous allons enfreindre un peu ces facteurs qui frappent aujourd'hui notre pays, l'exode rural. C'est tout le monde qui afflue vers la ville et nos villages restent sans peuple, sans population. Tout simplement parce qu'ils se rendent compte que tout est difficile dans le milieu rural. Et maintenant que l'opportunité se place devant l'avenir des Congolais, et il faut tomber dessus et saisir la balle au bois pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre une politique sur place, une politique adéquate pour, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, ni ce secteur pour que
alors,
les
alors,
Congolais
si on vous écoute, si on vous écoute bien, Jérémy,
c'est vraiment une bonne chose. Voilà. Et je voudrais aussi en faire un peu les cas sur ce point, parce que vous savez, lorsqu'on disponibilise le fonds, c'est un fait. Maintenant, le problème réside maintenant comment on peut arriver à mettre sur pied tout ce dont nous avons besoin pour, n'est-ce pas, desservir toute la population en énergie, et ça va aussi permettre à ce que le Congo puisse, n'est-ce pas, se retrouver.
Alors, si on vous écoute bien, Jérémy.
Sur l'échiquier international, et surtout notre pays, ce qui est drôle et ce qui est paradoxe, c'est que notre pays.
Si on vous écoute bien, vous avez posé le problème de la traçabilité. Vous pensez que c'est bon, c'est, l'idée c'est bien, mais c'est aussi une question d'appréhension. Non. Vous dites, est-ce que le fonds seront vraiment bien. Seront bien gérés, mais comment vont être les opérations sur terrain en termes de travail. C'est-à-dire qu'il y a autant de questions que vous vous posez, vu la grandeur, l'immensité du territoire national, pour qu'on arrive vraiment à concrétiser cela tout en saluant le projet et l'idée. Alors on va écouter Jean-Jacques qui est ici à Kinshasa, qui nous a aussi rejoint dans ces débats. Jean-Jacques, bonjour.
Bonjour, parole aux auditeurs Radio Kapi, c'est Kabongo Timine, Jean-Jacques Jappé depuis Kinshasa.
On vous écoute, Jean-Jacques.
Merci. D'abord, nous saluons l'initiative prise par le président de la République en 2020 de mettre en place cet établissement public nommé ANSER. Puisque les différentes études ont montré que la SNEL semblait faillir à sa mission, et ANSER est venu pour décoller, pour aider la SNEL à accomplir sa mission concernant l'électrification dans les milieux ruraux urbains et périurbains. Alors, nous avons des questions à poser par rapport aux fonds qui ont été mobilisés par l'ANSER. Nous demandons, est-ce que l'ANSER a bien préparé la contrepartie avec tous ces bailleurs de fonds qu'il a eu il a mobilisé ces fonds. Puisque ça arrive parfois que les fonds est mobilisé, bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit avec les bailleurs de fonds, tous leurs partenaires pour la contrepartie? Puisque nous ne voulons pas des situations où ça nous amènerait. Ça amènera des partenaires à commencer à aller exploiter des minéraux au cas où l'État congolais sera insolvable vis-à-vis de ses partenaires. Et encore, nous avons certains d'autres préalables. Nous voulons demander à l'invité qu'il puisse nous expliquer, depuis que l'enfer est sur place, comment est-ce qu'il a pu constater l'offre et la demande. Il y a l'offre est supérieure à la demande, ou bien c'est égal. Et encore, nous pensons que pour la quoi, pour bien mobiliser, pour bien mettre en œuvre les fonds mobilisés, il serait mieux que l'ANSER puisse créer des projets et appuyer le projet Fonds Mouinda qui a été déjà mis en place. Et jusque là, nous ne savons pas les résultats du projet Fonds Mouinda, mais l'ANSER compte déjà engager d'autres projets. Mais il c'est pas normal qu'on puisse nous dire c'est quoi les résultats du projet Fonds Mouinda, certains projets lancés par l'ANSER, et puis il serait mis alors utile de voir d'autres projets à agir.
Alors, en bref, si on vous suit, Jean-Jacques, vous avez dit aujourd'hui, vous êtes inquiet, vous vous demandez quelle sera par exemple la contrepartie. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que les investisseurs qui vont mettre leurs capitaux dans les domaines de l'électrification en milieu ruraux et périurbain, comment vont-ils, en d'autres termes, récupérer leurs capitaux? C'est que vous parlez en termes de contrepartie. Mais vous avez aussi posé la question à notre invité autour du projet qui a été lancé, je crois bien, le 29 janvier à Kinshasa de l'année passée. C'était Fonds Mouinda pour l'électrification de milieux ruraux. Alors, vous vous posez la question, qu'est-ce qui a été déjà fait avec ces projets et pourquoi mobiliser des fonds pour d'autres projets, si on peut avoir une idée sur le projet Fonds Mouinda. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous allons revenir à notre invité pour essayer de commenter ce qui a été dit tout à l'heure par les trois premiers compatriotes qui se sont exprimés.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Alors, nous sommes avec vous, Monsieur Idé Sbal de Chinamula, directeur général de ANSER. Vous avez suivi les trois compatriotes qui se sont exprimés. Si on peut englober, il y a notre ami Mbokolo qui revenait sur les types d'ouvrages à faire. C'est quoi exactement la source d'énergie qui va être utilisée? Il a aussi posé le problème de main d'œuvre qualifiée. Il y a notre ami Jérémy qui parle de la traçabilité des fonds, mais aussi du sérieux avec lesquels les travaux peuvent être faits. Notre ami Jean-Jacques revient sur la contrepartie, comment les investisseurs vont-ils récupérer les capitaux, mais il pose aussi la question du projet appelé Fonds Mouinda. Voilà un peu, en grande ligne, ce que le compatriote venait de dire tout à l'heure.
Parfait. Je voulais commencer par remercier le compatriote pour les très très bonnes questions. En réalité, j'ai pas suivi vraiment des questions, c'est beaucoup plus des contributions.
Exact,
des
oui.
Des contributions, des réflexions qui sont en train d'émettre, et aussi ses vœux. J'ai noté vraiment un vœu que ces projets réussissent. J'ai noté ces soucis que tout le monde a, que ça soit bien géré, que ça soit bien coordonné, que ça ne soit pas des promesses en vain, en l'air. Donc j'ai noté beaucoup plus de préoccupations, mais beaucoup plus d'adhésion à ce que nous avons dit, à l'approche que nous sommes en train de mettre en place. Donc je voudrais vraiment remercier les compatriotes et les rassurer là-dessus. Donc pour ce qui concerne les technologies, c'est toutes les technologies. Nous avons la chance en RDC d'avoir des sources d'énergie renouvelable diversifiées. Donc on a l'hydroélectricité avec les cours d'eau que nous avons. Souvenez-vous que nous sommes dans les bassins du Congo. Nous recueillons toutes les eaux de l'Afrique, viennent se recueillir au Congo en RDC. Et donc dans la cuvette centrale que nous sommes, nous avons des cours d'eau immenses. Et donc l'hydroélectricité, et plus particulièrement la petite hydroélectricité, est quelque chose que nous prenons et nous encourageons. Parce que nous avons produit, vous vous souvenez-vous que la RDC a réalisé son atlas des énergies renouvelables, qui a montré que nous avons plus de 886 pour l'hydroélectricité. Mais 6 ans après cet atlas, la production de cet atlas, il y a de nouveaux sites qu'on découvre ça et là. Et aujourd'hui, à la tête de l'ANSER, on m'informe qu'il y a plus de 1200 possibilités d'avoir la petite hydroélectricité. Donc, des endroits où on peut construire des micro-centrales hydroélectriques, des mini-centrales hydroélectriques ça et là à travers le pays. C'est déjà énorme. Mais nous avons aussi les solaires qu'on n'a pas beaucoup exploité dans ces pays, justement. Les solaires qui a beaucoup évolué aussi. La technologie solaire s'est nettement améliorée. Quand on regarde aujourd'hui, il y a 10 ans, on nous dit que les prix ont chuté par 2. Les prix ont été divisés par 2 pour les solaires. Par 10, je vais dire, s'il vous plaît. Les prix ont été divisés par 10 pour les solaires par rapport à l'origine, il y a 20 ans. Mais entre-temps, la performance des batteries s'est nettement améliorée. Donc l'énergie solaire est en train de s'affirmer. Et aujourd'hui, crédible, la technologie est mûre, c'est éprouvé aujourd'hui. Donc on peut aussi en faire, et je crois que de plus en plus de Quinois, j'en vois avec des backups, c'est-à-dire des réserves en batterie, panneaux solaires, ça et là. C'est une technologie qui marche, qui est éprouvée aujourd'hui, et que nous, dont nous faisons aussi la promotion, surtout qu'on ne l'a pas exploité au Congo. Mais en dehors de ça, il ne faut pas oublier que nous avons aussi plusieurs types, on peut produire de l'électricité à partir des ressources de la biomasse que nous avons, avec plusieurs diversités. Biomasse, c'est tout ce que nous avons comme forêt, comme effectivement des déchets, les résidus agricoles, et ainsi de suite. Tous ces aspects peuvent permettre, à travers les biogaz, de produire de l'électricité. Ça peut nous permettre aussi, à travers la vapeur, de générer de l'électricité. Nous avons aussi la géothermie qui existe, qui est effectivement cette eau chaude que nous avons sous des roches dans la terre, qui peut nous permettre également de produire de l'électricité. Et puis nous avons quelques endroits parsemés, ça et là, les éoliens. Donc on a une diversité, la gamme, elle est large, un menu très large pour produire de l'électricité. Nous prenons toutes ces technologies. Plus, parce que plus vous multipliez, vous avez des sources, vous combinez plusieurs sources à la fois, plus vous assurez la sécurité énergétique. Figurez-vous que si seulement on dépend de l'hydroélectricité, pendant la période des décrues, lorsqu'il y a, nous sommes en saison sèche, il n'y a pas assez d'eau, souvent les barrages peinent à tourner aussi. Mais là, nous pouvons utiliser maintenant le solaire qui, pendant ce moment-là, est disponible. On peut coupler avec d'autres sources. Donc, plus on a des sources, on combine plusieurs sources d'énergie, plus on sécurise, on est assuré qu'on aura de l'énergie en permanence, quel que soit le temps qui se présente, quelle que soit la période de l'année où on est. Et c'est ça que nous voulons prôner pour la RDC. Mmh. Alors, j'ai entendu M. Jérémy qui parlait, qui était préoccupé sur la manière de gérer, qui adhère à l'idée du projet, les trouve fantastiques, mais son problème, c'est le management. Nous essayons de faire des efforts. Nous sommes conscients des attentes de la population. Et là-dessus, je pense que le chef de l'État a bien fait de jeter son dévolu sur des techniciens que nous sommes. Il nous a vraiment fait confiance et il a regardé nos CV parce qu'il était conscient que c'est un travail important. C'est une réforme essentielle pour le pays. Et donc, vraiment, les critères de choix de notre désignation, c'était beaucoup plus basé sur l'expérience, sur les parcours professionnels. Et donc, vraiment, les CV ont beaucoup pesé, pas seulement pour moi seul, mais pour toute l'équipe avec laquelle je travaille. Et à mon tour, j'ai fait la même chose. On recrute par appel d'offres les compétitions. Nous cherchons les meilleures expériences, les meilleures expertises possibles. Et nous sommes vraiment fiers de les avoir. Et donc, nous essayons de faire de notre mieux. Et je pense que cette attente, on espère que d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans à mi-parcours, on pourra peut-être être content de ce que nous avons produit ensemble. Donc, je voulais vraiment l'apaiser là-dessus. Et puis, pour le troisième intervenant qui parlait sur les fonds Mwinda, sur la contrepartie, les ressources de contrepartie, effectivement, la mobilisation globalement, c'est au niveau du secteur privé. Parce que c'est un marché, c'est un business. L'électricité, c'est un grand marché qui n'est pas suffisamment connu d'ailleurs au Congo, et nous voulons le faire connaître, et nous voulons qu'il y ait aussi des Congolais qui viennent investir. Autant qu'ils reprennent aussi confiance dans les bâtiments, je vois beaucoup de Congolais qui investissent aujourd'hui dans l'immobilier, ce qui n'était pas la panacée des Congolais il y a quelques années. L'immobilier, c'était d'autres qui investissaient dans l'immobilier, mais je peux voir sur le boulevard qu'il y a quelques immeubles qui appartiennent à des Congolais, c'est très bien. Nous voulons aussi que dans les affaires qui concernent l'électricité, qu'il y ait effectivement des entreprises totalement congolaises qui appartiennent à des Congolais qui viennent investir dans ces marchés, conquérir ces marchés qui est vaste et qui est en train de se mettre en place. Mais pour l'instant, il n'y en a pas encore assez, mais nous avons beaucoup d'autres qui sont déjà, qui ont les flairs des affaires, qui viennent de très loin et qui comprennent que voilà, la RDC c'est un grand trou noir, mais il y a du potentiel, il y a tout ce qu'il faut, et donc tout ce qu'on attend, c'est que l'État puisse donner les go, puisse donner les cadres, mettre en place les cadres nécessaires. Et l'État a pris ses responsabilités justement en prenant la réforme, justement, excusez-moi, en prenant la réforme, en mettant en place l'ANSER, en mettant en place les incitations fiscales pour attirer les investissements privés. Donc l'État est en train de jouer sa partition. Et bon, bien sûr, et nous avons la responsabilité de partager maintenant les données, les informations, comment les potentiels se présentent, les marchés. Il faut que les gens connaissent le Congo au-delà de Kinshasa, au-delà de Goma, au-delà de Lubumbashi, au-delà, c'est pas moi, de Matadi. Il faut que les gens connaissent le Congo. J'ai beaucoup aimé le premier intervenant qui faisait allusion effectivement à tous ces territoires, et en les citant nommément, et ça c'est très important. Il faut qu'on apprenne à citer nos 145 territoires que nous connaissons, que nous parlons des programmes des 145 territoires. Il faut qu'on les cite. Il a parlé des Ingende, il a parlé de Bolamba, il a parlé de Bassankoussou, Bonongo. On a des provinces, Lomela, qui connaît Lomela là où ça se trouve, Ileka, qui connaît Opala, Ubundu, Bafouassende, c'est des choses, Manono par exemple, les Kakaburo, c'est des territoires, les territoires congolais, on doit les connaître un à un. Et ça, les investisseurs ne peuvent pas venir investir au Congo s'ils ne connaissent pas ces territoires. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ubundu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Ubundu? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ubundu, c'est l'endroit où les trains s'arrêtent, plutôt les cours d'eau, le fleuve Congo redevient navigable. Après un tronçon entre Kisangani et Ubundu, il y a un tronçon constitué de chutes, qui n'est pas un bief qui n'est pas navigable, un bief non navigable. Et donc on retrouve les biefs navigables à partir de Kisangani, sinon à partir de Ubundu pour aller vers Kindu, et ainsi de suite, et retrouver retrouver la source, le Lualaba, d'où le fleuve Congo vient. Et en même temps, à partir de Kisangani, on continue tous les fleuves jusqu'à Kinshasa et aller jusqu'à l'embouchure. Donc le territoire d'Ubundu est un territoire essentiel, critique. C'est un endroit où on fait les transbordements, que ce soit les chemins de fer, la route, les bateaux, mais il y a besoin d'électricité dans ces territoires-là de Ubundu. C'est juste un exemple pour vous montrer que si nous voulons attirer les investisseurs dans ces secteurs, il faut que nous puissions montrer les potentiels que nous avons dans les territoires. Il faut que nous puissions vendre la biodiversité, la richesse culturelle, les possibilités d'affaires qu'il y a dans les différents territoires de la RDC. C'est pour ça que nous saluons encore l'idée du programme des 145 territoires du chef de l'État, parce que ce programme va permettre vraiment de faire la promotion de ces 145 territoires, chacun dans ses richesses. Merci.
Alors, avant d'écouter des auditeurs, il y a Emina qui nous appelle de Bukavu et Benjamin qui est à Kisangani. Il y a la question, justement sur la question du projet Mwinda, comme l'a demandé tout à l'heure notre ami Jean-Jacques.
Oui, le projet Mwinda avance très bien. Le projet Mwinda, c'est un levier financier pour essayer d'apporter des subsides. Les subsides, ça veut dire essayer de rassurer les partenaires, les investisseurs, que quand bien même la population a un revenu très bas, c'est ça aussi la grande crainte. Tous les investisseurs disent que nous allons venir offrir les courants à un RDC, mais nous ne savons pas si les gens seront en mesure de payer, parce que ce n'est pas évident, les gens sont pauvres. C'est ça l'argument qu'on montre. Et nous disons, nous mettons en place le fonds Mwinda, qui va aider dans les milieux ruraux et périurbains. Nous sommes conscients que les revenus sont très bas, mais justement, le fonds Mwinda va permettre d'accorder des subventions. Si les gens sont capables de payer jusqu'à 60%, 70% de la facture, nous pouvons prendre en charge les 30% en termes de subsides pour que l'entreprise ne soit pas en perte et que l'entreprise puisse viabiliser son offre, voir qu'il y a une demande solvable et que ça puisse l'inciter à venir faire l'investissement. C'est un levier très important qui permet de rassurer les partenaires. Voilà, c'est
ça. Alors, nous allons écouter Emina Mwanda qui est à Bukavu et Benjamin à Kisangani. Je rappelle à nos auditeurs que le débat tourne autour des 120 millions de dollars d'investissement des partenaires techniques du secteur d'électricité et financiers qui ont été mobilisés pour la période allant de 2022 à 2025. C'est l'un des résultats de la table ronde tenue à Kinshasa du 25 au 26 janvier 2022 par l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER. Et ici, dans cette émission, nous sommes avec Monsieur Idesbal de Chinamula, directeur général ANSER. C'est avec lui que nous sommes en train d'échanger autour de ces questions. Alors, Emina, merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Monsieur le coordonnateur et à William Lungamba et à un millier d'autres auditeurs qui nous suivent en direct.
On vous écoute, Emina.
L'initiative, et nous saluons d'abord et nous accompagnons le gouvernement et tous les partenaires de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et urbain, de songer une fois de plus aux Congolais avec des comptes de 120 millions de dollars qui, tant soit peu, pourraient apporter une amélioration des conditions de vie des plus d'un Congolais vivant dans l'obscurité notoire depuis plusieurs années avec l'espoir que cet acompte n'est ni une proposition, moins une instruction qui laisserait croire au vu de tout un peuple des théâtres politiciens en intoxiquant la faute des chefs aux autres comme nous l'avions vu avec le fameux projet de réduction des coûts des billets, des prix des passeports et des importations de chinchards pour ne citer que cela, qui avait fait couler d'encre et salive. Nous souhaitons et soutenons cette fois-ci la réussite de cette unième initiative qui arrive à point nommé et demandons aux acteurs engagés dans celle-ci de bannir le mauvais politique et pratiques comme rétrocognition, Seyemouyangu et autres susceptibles d'entraver et empêcher son effectivité. Le sérieux et définition des principes clairs sont nécessaires pour l'aboutissement de ce projet, M. Pierrot, parce que, bon, nous savons que le gouvernement peut avoir les soucis, mais il s'appuie souvent à de mauvais partenaires. Et certains projets sont arrêtés pour flatter ou soit distraire les Congolais. Ces derniers temps, nous savons très bien qu'avec l'approche des élections, tout est possible, M. Pierrot, mais nous souhaitons que certains projets qui sont initiés ces derniers temps puissent être réalisés au lieu de continuer à nous distraire comme des petits ensembles.
Merci. Alors, éminent pour vous, votre souhait est que cela puisse marcher, qu'il y ait la concrétisation, n'est-ce pas, de ce programme de voir les milieux ruraux électrifiés. Et vous avez lancé ce message de volonté, d'engagement, d'intégrité, d'honnêteté pour arriver à réaliser ces projets. Merci beaucoup, hein, éminent. Maître Benjamin, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bonjour monsieur le journaliste, c'est maître Benjamin Kalumba depuis la ville de Kisangani.
On vous écoute, oui.
Oui, j'ai bien suivi les différentes interventions par rapport à ce sujet qui fait quand même la fierté de notre pays. À mon humble avis, j'apprécie l'initiative prônée par le président Tshisekedi pour développer certaines activités dans le coin du pays. Et le regret est que, monsieur le journaliste, dans notre pays, nous avions pas mal de chutes et des rivières qui pourront faire à ce que les entreprises qui peuvent produire l'électricité peuvent être montées sans problème. Mais avant de montrer d'autres entreprises électriques, mais il faut chercher à réhabiliter, soit à réaménager les centres qui, depuis l'époque coloniale, qui sont abandonnés. Prenons l'exemple de la ville de Kisangani. Nous avons le barrage de la Tchopo. Aujourd'hui, c'est tout un problème pour la ville de Kisangani soit électrifiée en totalité. Or, comment est-ce que les entreprises peuvent fonctionner s'il n'y a pas d'électricité? L'électricité peut permettre à une société d'être développée. S'il y a l'électricité, s'il y a les industries qui pourront fonctionner, et qui seront les bénéficiaires de les Congolais. C'est les Congolais. Prenons l'exemple même là où il n'y a pas d'électricité, dans le territoire, par exemple, d'Opal. J'ai été là il y a 3 mois, où il n'y a pas même une trace d'une entreprise, où il n'y a pas même trace d'électricité. Or, ce territoire, dans ce coin du pays, c'est un territoire qui produit le riz. Il y a la production des riz ou soit des padis. Mais ces riz ou soit des padis pourrissent dans ces coins du pays par manque d'électricité. Comment est-ce qu'on peut faire à produire ces riz ou soit des riseries pour que la population soit bénéficiaire? Alors c'est tout un problème. Moi j'aimerais que ces projets ne soient pas seulement bénéficiaires pour soit la ville de Kinshasa, Lubumbashi, Kasai, parce que c'est là que souvent je vois ils sont bénéficiaires, mais pour tous les pays, quand on parle de tous les territoires, nous pouvons regarder quels sont les territoires qui ont des points chauds pour le développement. On peut électrifier là où nous savons que dans tel territoire, on ne fait pas la production de quelque chose
que ce soit la production de tels produits. Là, c'est pour permettre aussi que les développements interviennent.
Alors, en parlant de, exactement, Benjamin, hein, merci beaucoup, en parlant de spécificité de chaque territoire avec la production, si vous vous rappelez, nous avions eu une émission ici avec le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, quand on a évoqué la question du plan national d'industrialisation de la RDC, on est revenu sur cette question. Vous estimez qu'aujourd'hui, on peut adapter la production de l'électricité dans chaque milieu en tenant compte aussi de potentialités économiques de production de chaque territoire, et ça peut permettre à ce que nos territoires puissent se développer. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, nous avons Deo Gracias qui nous appelle de Lubumbashi. Deo Gracias, merci d'être avec nous dans cette émission. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à l'invité. Et je salue aussi en passant tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute. Oui.
Moi, je pense que ce projet-là est bon parce que l'électricité constitue d'abord le développement, et soit le socle de développement d'un pays. Parce que nous avons les coins ici en République démocratique du Congo, par exemple les différents territoires où il n'y a même pas les courants électriques. Nous nous posons la question pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une loi sur la libéralisation de ces secteurs-là. Si nous avons le courant permanent, ça peut constituer le développement. Ici, par exemple, nous sommes dans le territoire de Kasenga. Et nous constatons qu'on utilise le courant qui vient de la Zambie. Et souvent, il y a des coupures du courant. Là, on va dépendre toujours de la volonté de la Zambie. Quand les Zambiens envoient le courant, c'est alors qu'on bénéficie. Mais si il y a, par exemple, ce genre de projet ici, nous avons le courant permanent, ça va quand même permettre aux gens de bénéficier dans ce secteur et de faire de grandes choses, parce qu'il y a les choses qui fonctionnent qu'avec les courants. Il y a ceux-là qui font le commerce en dépendant de l'énergie électrique. C'est pourquoi nous voyons que l'argent là qu'on a mis, les fonds là qu'on a mis pour ce secteur, que ça puisse quand même aider la population pour permettre le développement de notre pays dans ce secteur-là.
Merci beaucoup, Deo Gracias. Vous êtes revenu sur cette question de voir les projets se concrétiser, hein, compte tenu des problèmes qui se posent aujourd'hui dans chaque territoire. Alors, nous revenons à vous, Monsieur Idesmal de Chinamoula. Vous avez suivi nos compatriotes, mais il y a notre ami Benjamin qui évoquait tout à l'heure la question des spécificités de chaque territoire avec la production. Et c'est là que j'ai évoqué d'ailleurs le débat que nous avons eu sur la question du plan d'industrialisation du pays. Lui, il estime que dans le projet, faudra-t-il aujourd'hui qu'on puisse considérer chaque territoire avec ses potentialités et adapter la production d'électricité par rapport à ça, parce qu'il faut, en fin de compte, qu'on arrive à ces développements souhaités par tout le monde.
Effectivement, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez toujours. Hein.
Très bien, oui, oui.
Parfait. Merci beaucoup. Donc, je soutiens effectivement ce que messieurs vient de parler, donc Benjamin, je pense, et je suis tout à fait d'accord avec lui. On ne peut développer les potentiels énergétiques que lorsque nous savons mettre en valeur les potentiels économiques. Il a bien fait de mentionner qu'Opala s'est ingrénié avec les padis, les riz, que moi j'aime bien quand je suis à Kisangani, c'est de cela que je mange, et même moi-même j'achète toujours mon riz à Kingaboa qui vient justement soit de Lisala, soit justement de Kisangani, Opala via Kisangani bien entendu. Donc c'est du potentiel économique, c'est ça que nous faisons pour attirer les investissements privés, c'est de dire dans cette zone, il y a du potentialité, il y a de l'économique qu'on peut faire, Et on peut produire ceci, on peut produire cela, et l'énergie va servir à booster la petite industrie locale qui est là, qui n'existe pas, mais à la mettre en place, à la créer. Et c'est comme ça que nous travaillons en synergie, justement, avec les ministères de l'industrie. Et donc, son Excellence Julien Paloukou, que ça soit, je suis très, très en contact avec son directeur de cabinet, d'ailleurs, et nous avons été ensemble dans cette bataille de la table ronde. On était avec, justement, les ministères de l'industrie pour discuter ensemble avec eux, pour voir les zones industrielles où on peut justement orienter une grande partie de l'offre et qui va constituer une demande intéressante. Et puis nous voyons les autres zones qui sont en marge. Mais dans chaque territoire, je suis d'accord qu'on doit mettre en valeur la spécificité. Il y a des territoires à pêche, c'est ça que nous sommes en train de voir au niveau de l'Équateur. Plusieurs territoires offrent des possibilités en termes de pêche. Et dans ces territoires-là, on va mettre en place des unités de production, des glaces pour conserver ce que nous appelons la chaîne de froid, pour conserver les poissons, sinon des unités de séchage pour transformer aussi les produits. Et ça attire les investisseurs en disant il n'y a pas que les ménages, parce que les ménages ne représentent en réalité que 20% de la demande. Donc les vrais La vraie demande, c'est celle des activités économiques. Et c'est ça qui fait, qui reste à prouver et à démontrer pour attirer les investisseurs. Alors, l'autre question, si j'ai bien suivi, la deuxième question qui vient de se poser, c'était justement toujours sur la, c'était pas une question, c'était aussi une observation, en saluant l'initiative que le chef de l'État a mise en place, en disant aussi que les souhaits, c'est que ça soit bien géré, et donc les contributions des partenaires sont importantes, et que le gouvernement congolais doit aussi faire sa part. Le gouvernement congolais est en train de faire sa part. Nous sommes du gouvernement congolais en serre. C'est au nom du gouvernement congolais que nous actons, que nous faisons cette diffusion des données, cette diffusion de la carte, ce grand travail de la cartographie pour promouvoir les 145 territoires de la RDC, pour que les gens connaissent le Congo au-delà de Kinshasa, au-delà de Goma, comme je le disais tout à l'heure. On doit connaître chacun de ces territoires. Il a parlé des différents territoires que nous avons ici au Congo. Il faut qu'on fasse la promotion de ces différents territoires. Les grands défis, on le sait, c'est l'enclavement, c'est l'infrastructure pour arriver à ces territoires. Et là aussi, nous travaillons des communs accords avec les ministères du développement rural, avec celui aussi des infrastructures, parce qu'on doit pouvoir aussi s'assurer que lorsqu'on produit, on sera évacué, et que même pour construire les mini-micro-centrales hydroélectriques dans ces zones-là, il faut transporter du matériel et il faut s'assurer que c'est accessible. Donc on essaie de faire de la cohérence. C'est pour ça que nous avons un PIP, un programme d'investissement prioritaire, qui cible les priorités pour 2022, 2023, 2024, 2025 et au-delà, parce qu'on tient compte de l'accessibilité. Et on va promouvoir en sorte qu'on s'assure qu'on a ouvert la route, on peut aller là-bas. Et là où on n'a pas encore ouvert la route, on peut faire les choses qui sont dans la proximité de ce qui est accessible. Merci beaucoup. Allô?
Oui, nous sommes avec vous, Monsieur Idesbald. Alors, on va écouter le dernier auditeur de cette série pour revenir à vous par rapport à la question de, à la conclusion de cet échange. Alors, nous avons Laurent qui nous appelle de Kananga au Kasaï Central. Laurent, merci de nous avoir rejoint dans cette émission. Bonjour.
Bonjour, bonjour à l'invité, bonjour au peuple congolais. Je pense que ce sujet, c'est un sujet très important parce que voyant nos milieux ruraux, voyant nos villes, nous n'avons pas l'électricité. Je pense que c'est vraiment...
Alors Laurent, on a des petits soucis avec votre ligne. Pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu tout en intervenant? Voilà, là on a carrément des problèmes. C'est comme avec la plupart de nos auditeurs, on a des petits soucis de contact téléphonique entre le studio et les différents auditeurs. Alors je reviens à vous, Monsieur Idesbald de Chinamoula, parce qu'on va bientôt clôturer cette émission. Vous avez évoqué la question de la pauvreté. On sait que l'investissement dans les secteurs d'électricité, ce sont de gros investissements aujourd'hui. Et vous l'avez dit, le pouvoir des ménages ne peut représenter peut-être que 20% tout simplement. Il y a notre ami qui est revenu sur la question de la main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a la question des investissements, de la pauvreté et la question de la main-d'œuvre. Est-ce qu'au niveau de l'agence, en discutant avec vos partenaires, ce sont des éléments clés qui sont présentés aujourd'hui dans les discussions?
Tout à fait, exactement. C'est comme ça qu'on voit les choses. C'est pour ça qu'on a fait la table ronde, c'était le gouvernement dans son ensemble. Il y avait plusieurs sectoriels. Ce n'était pas seulement les ministères de l'énergie ou en serre. Nous avions les ministères de l'agriculture, les ministères de la pêche et élevage. Nous avions celui de l'industrie. Nous avions celui des petites et moyennes entreprises. Nous avions les ministères de l'environnement et différents autres ministères de l'économie nationale. Donc, c'était un vrai dialogue pour, et même celui des infrastructures que j'ai mentionné, de l'industrie. Donc, chacun devait montrer ce qu'il est en train de faire, et tout cela devait nous permettre d'avoir une programmation coordonnée. Ça, c'est la première chose qui a rassuré les partenaires, qui est le gouvernement parle d'une même voix, et donc il y a une certaine coordination, et ça nous permet de faire la priorisation. Je voudrais revenir sur la difficulté, j'ai tout à l'heure en suivi, et que la plupart d'auditeurs n'arrivent pas à se joindre à nous à cause d'une mauvaise connexion de la téléphonie et consorts. Ça aussi, c'est un défi lié à l'électricité. Aujourd'hui, la téléphonie ne couvre que 45% de l'étendue du pays, alors que donc il y a environ 55% du pays qui n'est pas couvert. Mais tout ça, c'est les défis liés à l'accès à l'électricité. Parce que vous voyez les antennes qui sont dans les provinces, dans les territoires, ça tourne à longueur de journée avec du gasoil, des groupes thermiques, et ça pose effectivement des problèmes des coûts de la téléphonie. Mais lorsque nous sommes en train d'avancer, nous allons aussi booster la téléphonie, l'accès. Parce que dans notre paquet, il y a effectivement l'accès à l'électricité qui s'accompagne de l'accès à la radio, à la télévision. La radio Capi pourra avoir davantage d'auditeurs dans toutes ces zones-là où on ne sait pas suivre la radio Capi ou suivre la télévision. Nous, tous les promoteurs que nous sommes en train d'utiliser dans les secteurs privés pour apporter les solutions énergétiques viennent avec des bouquets et accès à l'électricité est couplé avec l'accès à l'information. Donc il y a des postes radio qui accompagnent cette ouverture. Il y a certains qui viennent avec même des bouquets liés avec les postes de télévision. C'est qu'il y a une bonne chose, et ça permet justement aux ménages d'avoir accès à l'électricité, non seulement pour les ampoules, mais aussi suivre la radio, mais aussi écouter et regarder la télévision, mais aussi et également accéder à la téléphonie, donc pouvoir échanger. Et donc l'Internet, c'est un bouquet aussi qui s'intègre et qui s'intégrera. Vous avez vu à la table ronde, il y avait les ministères du numérique, lui-même était là, son Excellence Eberhard était là à la réunion, pour pouvoir justement parler de la synergie que nous devons bâtir entre l'ANSER et l'accès au numérique. On veut donner l'occasion à tous les Congolais où qu'ils se trouvent de pouvoir aussi bénéficier de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc c'est un bouquet assez large et nous avons tout intérêt à travailler avec, en partenariat avec tous ces différents ministères, et nous sommes en bonne voie. C'est ça que je voulais donner comme...
Alors, pour chuter, il y a la question qui est revenue par aussi les auditeurs qui l'ont écrit sur notre page Facebook, hein, la question de l'amélioration des climats des affaires. On connaît la question de la fiscalité dans notre pays, mais quelles sont les garanties alors que faudra-t-il donner aux investisseurs sur la question de la fiscalité et l'assainissement du climat des affaires? Et ça sera peut-être l'avant-dernière question avant votre mot de conclusion.
Oui, tout à fait. Là aussi, on a noté qu'il y a très peu l'information n'est pas connue. Le gouvernement congolais fait déjà beaucoup pour promouvoir le climat des affaires. Pour l'école des investissements, renferme beaucoup de dispositions d'attraction aux investissements privés, surtout dans les secteurs de l'énergie. Mais tout ça n'est pas suffisamment connu également. Les gens réclament des taxes qui, en fait, des exonérations qui sont déjà prévues, en fait, en réalité, mais simplement ils savent pas. Et les entreprises ne savent pas comment activer ces exonérations, comment pouvoir en bénéficier. Et donc la table ronde a eu aussi un moment où nous avons discuté sur ça, parce que c'était un sujet important. Et nous saluons encore le travail que l'ANAPI fait, l'Agence nationale des promotions des investissements. Et donc nous étions justement là, c'est elle qui est venue nous appuyer pour pouvoir donner tous les avantages qui sont repris dans les codes des investissements. Et beaucoup d'entreprises étaient en train d'apprendre, alors que c'est les codes des investissements, c'est une loi qui existe depuis quelques années et donc qui renferme déjà beaucoup d'avantages fiscaux et non fiscaux que les entreprises ne connaissent pas. Donc on va diffuser tout ça, on va vulgariser tous ces instruments pour justement rassurer nos partenaires, les investisseurs privés, que l'État congolais est conscient de leur rôle et est en train de mettre en place aussi tous les éléments nécessaires pour l'amélioration du climat des affaires, qui fait partie aujourd'hui des matrices clés de suivi au niveau du gouvernement.
Alors, juste un mot pour conclure tout ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on peut retenir, juste un mot pour conclure cet échange?
Oui, cet échange, je suis très content de ce que j'ai entendu des auditeurs qui réclament d'ailleurs qu'on puisse encore revenir. Moi-même, je suis tout à fait d'accord avec ça. On fera de notre mieux. Nous ne voulons pas seulement beaucoup parler, mais nous voulons plutôt réagir et plutôt agir et montrer des projets qu'on met en place et venir à l'inauguration. Donc, je pense que la prochaine fois, avec Radio Capi, ça sera sur le terrain, dans différents territoires. C'est là vraiment que nous allons aller. Et je voudrais rassurer nos compatriotes que nous sommes en train de nous mouiller les maillots et que ils peuvent en être sûrs que nous allons avoir des résultats très importants.
Merci beaucoup, Monsieur Idesbal de Chinamoula, directeur général de ANSER. Merci d'avoir échangé avec les auditeurs des Radio Capi.
Thomas, tu vous remercie.
On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Willem Lungamba était à la mise en onde de cette émission, présentée par Pierrot Elamegi. Vous pouvez la réécouter sur www.radiocapi.net. Mais n'oubliez pas que le débat s'est posé sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Au revoir.